100% raisin, des mots en bouteille. Épisode 6, le premier qui voit la mer. De l'encre sur le papier, très noir sur fond blanc. De petits carnets méthodiquement entassés au fond d'une panière, où je dois chaque fois fouiller pour retrouver trace de telle ou telle dégustation. Où ai-je donc rangé mon carnet rouge de l'année 2017 ? Et le bleu, celui qui m'accompagnait pour le millésime 2012 ? Ou encore le jaune paille où se couchent les argiles noires de Cumière du champagne Louis Roederer. De petits formats de Moleskine que je prends un plaisir infini à choisir et que j'entame systématiquement avec de belles lignes d'écriture qui, au fur et à mesure que les pages avancent, deviennent moins certaines et plus anarchiques parce que j'ai dû prendre des notes avec le verre dans la main droite, au fond d'une cave mal éclairée, et que je dois en plus me pencher pour cracher méthodiquement derrière les tonneaux, avec la satisfaction de braver l'un des plus grands interdits qui soit, tu ne cracheras point. Sur ces pages dorment tous mes souvenirs. À leur manière, ils constituent les briques de ma mémoire, infaillibles, et je les remonte un à un, me rappelant chaque dégustation, chaque rencontre, chaque paysage. Si je ne perçois plus bien les visages des vignerons qui m'ont reçu, incapable de les reconnaître, à moins qu'ils me deviennent familiers, je me remémore les atmosphères de cave, l'odeur du bois frais, le crissement du gravier qui roule à chaque pas, et l'humidité qui me glace les pieds et me remonte dans le dos. Combien d'heures passées à ne ressentir que ce froid lancinant, quand la tête est tout entière au bonheur de la découverte. Je savais que j'aurais dû mettre d'autres chaussures, je le savais. Et donc là, c'est le même vin dans une barrique Seguin-Moreau, c'est bien cela ? Ah oui, ça goûte vraiment plus en profondeur que Stockinger. Débat de spécialistes, infinis et savoureux parce qu'ils ne sont jamais tranchés. Mon record absolu est 8 heures. 8 heures enfermées dans la cave de Jean-François Genva, géant du Jura. Au fond de la combe de Rotalier, juste au sud de Lons-Saunier, son petit domaine est adossé à la forêt, blotti au creux d'un paysage de pastoral qui semble n'avoir jamais bougé, figé comme une composition de Claude Lorrain. Une nature originelle, recroquevillée au fond d'un vallon, exfiltrée du monde et apaisée. Quelques bosquets, des haies, des champs de vignes, des vergers, et partout la quiétude, les animaux de la ferme, une vie simple de paysans tout à leur travail et à la joie de produire de leurs mains. J'arrive pour 17 heures au domaine, comme convenu. C'est ma dernière visite de la journée, il est prévu que je reste dîner et que je passe la nuit sur place, car trouver un logis dans les parages est assez incertain, surtout pour moi qui navigue sans escorte. Salutations générales, nous voilà prêts pour la visite circonstanciée de la cave, un exercice que je fais chaque année. La visite chez Fanfan est un incontournable. Il est l'un des vignerons les plus renommés de la région, l'un des plus sensibles aussi. Avec 9 hectares cultivés en biodynamie, il sculpte des blancs cristallins qui suivent l'humeur du millésime et sa mélancolie. En cette fin d'après-midi du mois de mars, le ciel est encore clair, l'air doux et printanier. Kenjiro Kagami nous a rejoints. Il est son voisin, installé sur 4 hectares et comme Jean-François, fidèle ouvrier de la vigne. Nous débutons par le grand hangar des vins de négoce, des cuvées tout à l'imagination et à l'impertinence de Fanfan. Des assemblages originaux de cépages, d'origine, d'années, des vins pour la soif. Le soir avance, nous franchissons la porte de la cave principale, située juste en face. Là, le grand dédale commence. Il faut en général 2 ou 3 bonnes heures pour en faire le tour complet, mais ce soir-là, dans la pénombre qui guettait, dans le frisson d'un soir sans étoiles qui tombait sur nous, nous étions recueillis devant chaque barrique, avançant en procession, d'un pas lent, entre les rangées de fûts et de foudres, goûtant les savaniens roses, verts, jaunes, les chardonnays de vignes centenaires, les melons à queue rouge sur argile, des cépages plantés en 1902, 1919 ou en 1949, certains sur des marnes, d'autres sur des schistes, d'autres encore des graviers de terre rouge. Des vins dans tout leur éclat, leur rareté et leur intransigeance, à l'énergie tranchante, juste portée par le confort rassurant de l'élevage. J'avais perdu la notion du temps. Moi pourtant si fidèle aux aiguilles que 2 minutes de retard effraie et qui redoute plus que tout toute modification horaire non programmée, me coulait dans cette nuit interminable. Plusieurs fois la sœur de Jean-François appela pour demander où nous en étions, l'heure du dîner approchant. On remonte bientôt, on a fini, répondait Fanfan. On n'avait jamais fini. Plus on goûtait, plus Fanfan se libérait, me parlait de sa vision du vin, de ses essais en amphore, de son possible abandon des barriques en bois de chêne. Kenjiro ne laissait rien paraître, sa politesse toute nippone muselant sans doute toute impatience de sa part. L'heure du dîner était loin. Anne rappela. Nous replongeâmes pour une rangée de barriques. Mon angoisse de l'heure avait disparu. Je profitais de cet instant magique, un peu surréaliste. Quand nous remontâmes à la surface, il faisait nuit noire. Il était minuit passé. Une journée entière fondue dans la nuit des vins de Jean-François Ganva. 8 heures échappées du monde, à l'abri des regards, du temps, de toutes circonstances. 8 heures de quiétude, d'intimité, de confidence. Ce soir-là, je n'ai pas noté grand-chose dans mon carnet. Pour tout dire, j'y ai consigné les premiers vins pour les retranscrire ensuite, et quand la nuit s'est enfoncée, quand la lumière a reparu dans mon verre au détour d'une barrique, j'ai abandonné les mots pour ne conserver que l'instant. Des confidences à la première personne, où celui qui dit « je » est forcément sincère, du moins veut-on le croire et je l'ai cru. C'est toujours une position difficile de parler de soi, et j'ai souvent remarqué que chez les vignerons, la pudeur va de pair avec le talent et qu'il y a au détour d'une dégustation une partie d'eux-mêmes qu'ils nous livrent, consciemment ou non. On me dit de dire « je ». Ce n'est pas la même chose que de dire « moi ». Distanciation sociale. Je choisis mes mots, je peux écrire ce que bon me semble, je peux même vous mentir, vous ne saurez jamais si je dis la vérité. J'avais lu que la mémoire n'est qu'une reconstruction. On peut, involontairement, se créer de faux souvenirs. Être persuadé d'avoir éprouvé une chose qui n'est en fait qu'une pure construction de l'esprit. Comment savoir, au moment où je vous parle, si je ne suis pas en train de reconstruire ma mémoire et la peupler de souvenirs pour en effacer d'autres? Je fais de vous les complices de mes mensonges. Avec le vin, on ne peut guère tricher. Bien sûr, on peut broder sur la forme, camoufler ou tronquer des informations, mais pour le dégustateur averti, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Ce soir-là, dans la pénombre d'une cave suintant d'humidité, les heures étaient passées sans qu'on ne leur accorde aucun crédit. Que ce fût le jour ou la nuit, cela n'avait plus d'importance. Est-ce ce temps créateur dont parlait Bergson? Une création continue d'imprévisibles nouveautés, l'élan vital qui agit sur les choses pour les amener à se différencier au lieu d'opérer de simples réarrangements continuels? Le philosophe nous parle de la durée de l'univers. Plus nous approfondirons la nature du temps, plus nous comprendrons que durée signifie invention, création de forme, élaboration continue de l'absolument nouveau. Dans ce théâtre symbolique qui s'était joué dans cette cave, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, la durée avait triomphé, recréant un ordre nouveau, un élan vital insoupçonné. Il y a ce qui dure et ce que l'on s'évertue à prolonger par la mémoire, que l'on étire à l'infini chaque fois que l'on se remémore et que réapparaît l'image. Déformée parfois, toute personnelle, inégale ou incomplète, toujours utile. Comme les belles promesses du passé. C'était un long périple, une transhumance de 3 jours pour franchir les 450 kilomètres qui nous séparaient de l'océan. Une éternité quand on a 10 ans, une villégiature lorsque l'on est parent. Traverser l'ouest par les petites routes, trouver un endroit pour pique-niquer, le rater parce qu'on roule trop vite, hésiter, rater encore le suivant, s'énerver, ralentir, parvenir à trouver un coin pas trop mal, ombragé, au calme, dans la verdure. Une étape aux portes de l'Anjou, ce doux pays qui finalement ne l'était pas tant que ça, surtout en plein été. Et puis regarder défiler les tournesols ouvrant grand leurs pétales jaunes, pleins de fougue, sûrs de leur poussée. Sur le chemin du retour, ils seraient rendus à leur désolation, brûlés par le soleil, noircis, recroquevillés sur leurs tiges. Cramés comme nos peaux bronzées, mais elles ragaillardies par 3 semaines de vacances. Il fallait donc arriver pour combler notre impatience, ne pas trop traîner en route, de peur que la mer se retire, aspirée par l'élan de vacanciers prêts à l'assaillir à coups de parasols et de boules de sable mouillées. Les premiers roulis dans l'agglomération vendéenne marquaient le top départ de notre jeu. Le premier qui voit la mer a gagné. Un défi immense pour moi que je m'acharnais à relever. S'ensuivait une agitation et une excitation permises par l'inexistence des mesures élémentaires de sécurité. Aucune ceinture à l'arrière, chacun débordant sur le siège du voisin, les pieds en l'air ou dans le dossier du chauffeur, affalé sur la banquette, la tête en bas. « Forcément, comme ça, tu vas être malade, ne t'étonne pas. Reste tranquille. »« Maman, elle prend toute la place. Enlève tes chaussettes de ma figure. Ça va mal se finir. » L'horizon nous jouait des tours, le bleu apparaissait comme un mirage, l'étendue azur se confondait avec les nuages. J'avais bien du mal, étant la plus petite, à me hisser pour voir plus loin que les lignes du pare-choc. Je ne tenais plus en place. Et puis soudain, au détour d'une rue, dans l'angle d'un immeuble, un petit coin de bleu se détachait, tranquille, éclatant. C'était une autre nuance, un reflet particulier, très différent du ciel, qui se projetait devant nous. Et avec lui montaient les effluves iodés de l'Atlantique, les cris des mouettes qui saluaient notre arrivée, tous ces parfums d'eau et de sable qui emplissaient nos poumons et que j'ai toujours gardés. Et encore aujourd'hui, chaque fois que je descends du train, le même mouvement m'emporte, ces odeurs d'eau salée, de vent, de mer fraîche, qui dessinent tout autour de moi le parfait habitacle de mon bonheur. Ce n'est pas une nostalgie, c'est le souvenir encore tout chaud de l'enfance. Le bleu du ciel tombant dans celui de la mer, le soleil haut, radieux, gardien imparable de vacances inoubliables. L'assurance que tout ira bien. Exactement comme ces bouts de campagne, immuables, sur lesquels poussent les grappes de raisins et qui restent là, dans l'attente de la prochaine récolte, sûrs de leurs promesses et de leur bonheur.